Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Un podcast France Culture.
Deuxième jour de notre série sur les grands débats économiques de la campagne pour les élections européennes. L'Europe est écartelée, on en parlait hier, entre les partisans de la responsabilité budgétaire et les défenseurs d'un assouplissement des règles de Maastricht dans le but de financer la transition écologique. Mais elle est sans doute plus divisée encore sur la question de l'immigration. En effet, pour certains, les pénuries de main-d'œuvre sur le sol européen nécessitent d'ouvrir plus largement les frontières. D'autres, au contraire, continuent de nier les bénéfices économiques de l'immigration. Pour parler des enjeux économiques de l'immigration, nous avons invité Ekram Bouptan, économiste, maîtresse de conférences, chercheuse associée à l'École d'économie de Paris, autrice de cet ouvrage « L'économie de l'immigration » paru aux presses universitaires Blaise Pascal en 2018. Également avec nous à distance, Hélène Thiollet, politiste, chercheuse au CNRS et aux séries Sciences Po. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancey, Anouk Miliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour Hélène Thiollet et Ekram Bouptan.
Bonjour.
Merci Bonjour. À toutes les deux d'être avec nous. Alors, ce qu'il faut dire peut-être pour commencer, Hélène Thiollet, c'est que le nombre de réfugiés dans le monde n'a cessé d'augmenter ces dernières années.
Absolument. Le début de l'explosion, c'est vraiment 2012. Et on voit effectivement augmenter le nombre de réfugiés, mais on voit surtout augmenter le nombre de ceux qu'on appelle les déplacés internes, c'est-à-dire des personnes qui sont déplacées à l'intérieur des frontières de leur pays. Et ça nous indique aussi un phénomène important qui est que, bien sûr, il y a de plus en plus d'exilés. On peut penser aux crises syriennes ou à la crise ukrainienne. Mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui devraient s'exiler pour assurer leur protection et leur survie et qui, en fait, se retrouvent coincées à l'intérieur des frontières de leur pays par manque de moyens de fuir des situations de crise ou des situations de danger.
Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus d'1 140 000 demandes ont été déposées en 2023 dans les pays de l'Union européenne, ainsi que en Norvège et en Suisse. C'est une augmentation de 18% par rapport à l'année précédente. Ce sont des réfugiés, des demandeurs d'asile qui viennent principalement de Syrie, puis d'Afghanistan, de Turquie, du Venezuela et de la Colombie. Au-delà des réfugiés, des demandeurs d'asile, Ekram Bouptan, il y a une tendance générale à une hausse de la mobilité dans le monde ?
Qui est tout à fait normal, étant donné qu'on est dans un monde qui est de plus en plus intégré, avec le phénomène de mondialisation, on a effectivement une augmentation de la mobilité des travailleurs, une augmentation et donc de la mobilité des familles de ces travailleurs. Et on va avoir aussi une augmentation de la mobilité des étudiants internationaux. Et donc, effectivement, on a une tendance générale d'une augmentation de la mobilité des personnes dans le monde et plus particulièrement dans les pays les plus avancés, où les personnes viennent chercher des perspectives économiques qui sont meilleures.
Hélène Thiollet ?
Oui, peut-être pour pas contredire ma collègue, mais plutôt nuancer l'idée d'augmentation de la mobilité mondiale. On voit qu'effectivement, les chiffres bruts du nombre de personnes qui se déplacent dans le monde augmentent depuis le début des années 90, pour atteindre à peu près 280 millions aujourd'hui. En revanche, en proportion de la population mondiale, on reste à peu près stable, entre 3-3,5%. Donc en fait, la mobilité augmente un tout petit peu, mais c'est surtout la population mondiale qui augmente. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition géographique de cette mobilité. La mobilité, on va dire, migrante classique, souvent considérée comme économique, elle est répartie entre les pays développés et les pays en développement, hein, à peu près 160 millions de migrants dans les pays dits du Nord et 130 dans les pays dits du Sud. Mais en revanche, quand on regarde la migration forcée que vous évoquiez avant, on a une disproportion totale. L'immense majorité des personnes déplacées par la violence sont dans les pays du Sud, dans les pays les plus pauvres, et seulement une toute petite partie dans les pays du Nord.
Donc une hausse de la mobilité dans le monde qui est réelle mais qu'il faut en même temps relativiser. Et pendant ce temps, en Europe, le nombre de naissances est inférieur au nombre de décès depuis plus de 10 ans, tandis que depuis les années 80, les arrivées sur le sol des 27 sont plus importantes que les départs. Donc les migrations compensent la baisse des naissances, Ekram Boubtam, en Europe ?
Oui, mais avant de revenir sur ces tendances démographiques, je voudrais rebondir un petit peu. Donc, je partage bien le constat que les populations, en fait, les personnes qui recherchent une protection internationale sont plus déplacées dans les pays en développement. Et donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Hélène sur le fait que l'Europe ne prend pas sa part dans la partie humanitaire. Toutefois, effectivement, même rapporté à la taille de la population, on a une augmentation de la mobilité, principalement dans les pays développés. Donc, la réalité de la mobilité des personnes, ce n'est pas nécessairement effectivement quelque chose de négatif, c'est plutôt un facteur de développement économique et plus on a des moyens et plus on sera amené à être un peu plus mobile, notamment entre les pays. Donc pour revenir sur ces tendances démographiques, oui, à l'échelle de l'Union européenne, en l'absence de l'immigration, on aurait eu une baisse de la population. Pourquoi ? Parce que depuis 2012, on a une augmentation des décès qui n'est pas compensée par les naissances et donc sans l'immigration, on a eu une baisse de la population dans son ensemble dans l'Union européenne des 27, mais il faut faire attention que la situation n'est pas la même selon qu'on soit pour les pays d'Europe de l'Ouest et les pays qui ont rejoint l'Union européenne à partir de 2004, donc les pays d'Europe de l'Est. Pourquoi ? Parce que dans les pays de l'Europe de l'Est, où ils ont à la fois un solde naturel négatif, s'ajoutent à cela effectivement des politiques migratoires qui sont plutôt plus restrictives et des populations nationales qui partent émigrer dans les autres pays européens. Et donc dans les pays de l'Est, ce qu'on observe, c'est plutôt une baisse de la population et un solde migratoire qui est négatif.
Oui, c'est important de rappeler ces disparités en Europe. Hélène Thiollet, il y a des pays européens où le solde migratoire est négatif ?
Absolument, il y a une variété de situations en Europe qui correspond à différentes configurations du marché du travail, qui correspond aussi à l'histoire de l'intégration européenne. Et là encore, dans ces différents profils, on voit que toujours vont s'articuler, les questions migratoires et éventuellement les questions d'asile. Je voudrais prendre le cas de la Pologne, qui est un cas intéressant. Donc la Pologne, qui est un pays à l'est de l'Europe, qui a rejoint le projet européen après la chute de l'Union soviétique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la Pologne est massivement un pays d'émigration vers l'Europe de l'Ouest dans le cadre de Schengen, mais c'est aussi un pays d'immigration, et notamment avant 2022, donc avant l'invasion russe en Ukraine, c'était déjà un pays d'immigration de travailleuses et travailleurs ukrainiens, avec un effet de remplacement, on va dire, d'une partie des populations polonaises qui partaient travailler au Royaume-Uni, en Europe de l'Ouest en général, et l'arrivée de travailleuses et travailleurs ukrainiens. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du début de la guerre, qui en fait est à dater de 2014, évidemment, avec l'occupation des provinces orientales de l'Ukraine, on voit une augmentation massive de cette émigration, je mettrai ici des guillemets, de personnes qui viennent essentiellement des provinces qui sont occupées par la Russie et qui vont immigrer en Pologne sans statut de réfugié, mais quand même dans le cadre d'un déplacement forcé, puisqu'ils viennent de ces zones occupées. Et c'est à partir de 2022 que ce flux non seulement augmente, mais devient qualifié aux yeux de l'Union européenne et avec l'activation d'une directive de protection temporaire qui devient un flux de réfugiés. Mais on voit bien l'articulation ici à la fois des géographies de la migration au sein de l'Union européenne et du lien de l'Union européenne avec ses voisins immédiats et aussi de l'articulation entre migration et asile.
Ce que l'on comprend bien, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs raisons qui se mélangent, qui font que qu'on quitte son pays. Ekram Boubtam, il peut y avoir des raisons liées à la fuite de la guerre, de la violence, qui se mêlent à des raisons économiques.
Effectivement, c'est compliqué d'analyser effectivement ex post les motivations de l'immigration, parce qu'effectivement il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, la volonté des personnes, la situation dans laquelle ils se trouvent dans leur pays d'origine et la politique du pays d'accueil. Et donc on peut être à la fois à la recherche d'une protection internationale parce qu'on est persécuté dans son pays, et dans le même temps aspirer à avoir une vie meilleure et donc rechercher effectivement l'asile plutôt dans une région plus développée où on a des perspectives d'emploi et des perspectives d'avenir, plutôt que dans une région qui soit moins qualifiée. Et donc, il faut faire attention à ne pas aussi limiter effectivement cette appréciation des motivations de la migration, à les arrêter juste à la façon dont on les mesure, on les quantifie, avec les motifs légaux de délivrance d'un titre de séjour, qui sont les données dont on dispose, nous, chercheurs, pour analyser les phénomènes. Mais effectivement, c'est très réducteur des motivations de la migration. Si je peux me permettre juste rapidement sur la Pologne, parce que c'est vraiment un cas très intéressant, la Pologne n'a pas vraiment de politique d'immigration permanente. C'est-à-dire que même avant la guerre en Ukraine, c'est vrai que c'était assez paradoxal lorsqu'on regarde les données, parce que la Pologne est la première destination dans le monde développé des travailleurs temporaires, même devant les États-Unis. Et effectivement, c'est principalement des travailleurs ukrainiens, mais avec des contrats qui sont temporaires, donc de court terme. Donc c'est une mobilité de travail. Pourquoi ? Bon, j'anticipe un petit peu sur la suite, sur la question économique. C'est les besoins, effectivement, de l'économie polonaise qui ont dicté cette politique, en partie, bien sûr, avant la guerre en Ukraine, cette politique d'ouverture vers une migration de travail, mais avec cette idée plutôt d'une migration temporaire de travail et non pas du tout dans des programmes qui sont plus permanents.
Qui c'est ?
C'est des mecs que je dépanne.
Morning.
France Culture.
My wife, Marion.
Mais ils sont chez toi depuis quand ?
Je sais pas, 3 jours, 4 jours.
Entendez-vous l'écho ?
Where are you from ?
Iraq, madame. Kurdistan.
Qu'est-ce qui se passe ?
Il est à moitié dingue, le grand. Il veut y aller à la nage.
Où ça ?
Ben, en Angleterre. Il veut que je m'entraîne.
Tiphaine de Roquigny.
Nous parlons de la politique migratoire européenne face aux pénuries de main-d'œuvre en compagnie de la politiste Hélène Thiollet et de l'économiste Ekram Buptam. Alors, vous avez parlé, Ekram Buptam, des besoins économiques de la Pologne. Dans quelle mesure, aujourd'hui, le travail des immigrés contribue à limiter la pénurie de main-d'œuvre à la fois en France, mais finalement, effectivement, dans toute l'Europe ?
Les immigrés ont contribué depuis toujours, en fait, à répondre aux besoins des main-d'œuvre dans les pays européens et en France. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est vrai que tout le monde a en tête la contribution du travail des émigrés dans les années 60-70 en période d'industrialisation et de reconstruction. Mais on oublie que même sur les années plus récentes, et malgré effectivement le fait qu'on avait des marchés du travail dans lesquels on avait un taux de chômage qui était relativement élevé, on a toujours eu des tensions dans des métiers bien particuliers dans lesquels effectivement ce sont les émigrés qui répondaient à ces besoins-là du marché du travail. Et donc on retrouve les émigrés dans des emplois qui sont plutôt très qualifiés, mais on les retrouve aussi dans des emplois qui sont moins qualifiés. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir effectivement une surreprésentation des immigrés dans ces deux extrêmes, en fait, de la distribution des emplois. Et donc, ce sont des emplois qui sont essentiels pour l'économie. Et donc, effectivement, l'immigration en Europe et en France, elle a contribué à augmenter le taux d'emploi. Et elle a été un vecteur de croissance économique sur les périodes qu'on a étudiées.
Mais quels sont les secteurs de l'économie qui aujourd'hui souffrent le plus de pénurie de main-d'œuvre, Ekram Buptam ?
Alors, ce qui est assez marquant dans la période d'aujourd'hui, c'est que il y a 10-20 ans, on avait des besoins dans des secteurs bien particuliers. Donc, on avait des tensions toujours dans le secteur du bâtiment, dans le secteur des services à la personne. On avait aussi des questions de tension pour les informaticiens ou pour d'autres secteurs des nouvelles technologies de l'information et des communications. Ce qui est marquant dans la période d'aujourd'hui, et ça révèle aussi cette question de tendance démographique où on a vraiment la démographie commence à se faire sentir dans l'économie, c'est que les tensions sont généralisées dans tous les secteurs de l'économie.
Oui, car la population en âge de travailler ne cesse de diminuer en Europe. C'est bien cela, c'est-à-dire que d'ici à 2070, la part des personnes en âge de travailler au sein de l'Union européenne passera de 65% à 55% de la population. Voilà, aujourd'hui vous nous dites tous les secteurs sont touchés.
Tous les secteurs sont en tension et on va avoir effectivement dans des métiers qui sont plus en tension que d'autres. Et c'est pour ça qu'effectivement la question aujourd'hui des besoins de main-d'œuvre n'est plus une question simplement sectorielle ou pour des qualifications bien particulières. Ça devient une question macroéconomique qui touche effectivement l'ensemble de l'économie. Et c'est une question aujourd'hui qui nous pousserait aussi à réfléchir. Est-ce qu'on voudrait accompagner effectivement le développement de l'économie et répondre aux besoins de main-d'œuvre avec une politique adéquate ou simplement laisser les choses faire et laisser effectivement des emplois se détruire dans l'économie par manque de main-d'œuvre ?
Sachant qu'avec la numérisation de l'économie, on assiste à une polarisation des qualifications sur le marché de l'emploi, Ekram Bouptane, et ça rejoint ce que vous nous dites sur le fait que les immigrés se concentrent en haut et en bas de l'échelle des qualifications. Donc on aura d'autant plus besoin d'immigrés.
Oui, parce que la numérisation de l'économie va faire qu'on aura besoin aussi des immigrés dans les secteurs à haute valeur ajoutée, donc dans les secteurs technologiques. Et là, effectivement, il y a des besoins. Et on a aussi besoin, effectivement, parce que ce qui est assez paradoxal avec la numérisation de l'économie, c'est que ça crée aussi beaucoup d'emplois à faible valeur ajoutée. Et dans ces emplois à faible valeur ajoutée, puisqu'on a une population d'âge de travailler, comme vous l'avez précisé, qui baisse, on a de moins en moins de jeunes, de plus en plus qualifiés et qui aspirent à des emplois meilleurs. Et donc, on a besoin aussi des immigrés pour ces emplois-là.
C'est le premier accord de ce type qui a été finalisé après 5 ans de discussion. Et c'est donc une date très importante. C'est, si vous voulez, un peu un laboratoire pour préparer, pour le 1er janvier 1993, la liberté de circulation dans les 12 pays de la communauté.
Est-ce que vous n'avez pas connu quelques difficultés, notamment en matière d'immigration ?
Nous avons connu beaucoup de difficultés parce qu'on n'imaginait pas au début le nombre de problèmes qu'il y avait à partir du moment où vous supprimez les frontières et où vous devez tout de même assurer la sécurité, poursuivre les gens qui ont commis des crimes ou des délits, mettre en place des mécanismes pour lutter contre le terrorisme ou la drogue, ça fait beaucoup de difficultés. Donc, nous avons discuté pendant longtemps et aujourd'hui, nous sommes arrivés à une solution qui est tout à fait satisfaisante.
Voilà, Edith Cresson, qui était ministre des Affaires européennes, c'était le 19 juin 1990 sur France 3. Hélène Thiollet, rappelez-nous, si vous le voulez bien, dans quel contexte cette politique européenne d'immigration et d'asile se met en place dans les années 90 ?
En réalité, il y a une articulation entre deux dynamiques, la dynamique d'ouverture des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen et une dynamique de contrôle accru des frontières à l'extérieur de l'espace Schengen. Donc la mise en œuvre de la libre circulation intra-européenne qui va favoriser la mobilité entre pays européens, qui est majoritaire dans certains pays, qui fluctue un peu en France. On a en général plus de migrations extra-européennes que intra-européennes, mais ça varie. En fait, donc les deux vont s'articuler. Mais il faut pas oublier que la géographie européenne elle-même, elle bouge, puisqu'en fait les frontières de l'Europe vont progressivement s'étendre vers l'Est. Donc d'anciens pays qui étaient à l'extérieur de l'Europe vont devenir des pays européens, et donc on a une progressive, on va dire, extension de cet espace européen et un passage de migration extérieure à migration interne. Ce qu'on voit vraiment dans les années 90, c'est un processus progressif de durcissement des frontières externes de l'Union européenne. Et progressivement, les États membres et dans une moindre mesure l'Europe comme organisation régionale vont organiser une forme, ce qu'on appelle la diplomatie migratoire, c'est-à-dire des accords diplomatiques qui vont avoir fonction à contrôler de manière de plus en plus stricte et avec des impératifs de sécurité de plus en plus prégnants la circulation des personnes en provenance des espaces extra-européens. Et ça va se faire notamment à travers un ciblage de plus en plus obsessionnel, en fait, des États membres sur la migration irrégulière et les accords de réadmission des personnes trouvées en situation irrégulière dans des territoires européens pour qu'ils soient réadmis dans leur pays d'origine. C'est assez intéressant parce que cette fixation sur la migration irrégulière, C'est une fixation qui répond à des logiques qui sont très politiques, voire politiciennes, qui s'articulent à des discours sur l'identité européenne, sur la souveraineté, sur une rhétorique du contrôle, et qui sont pourtant en fait assez minoritaires dans les flux migratoires et qui concerne une part en fait très très faible hein, des mobilités intra et extra européennes aussi bien qu'on puisse les mesurer parce que bien sûr il est compliqué de mesurer des migrations irrégulières qui par définition ne sont pas captées par les statistiques publiques mais en revanche c'est une fixation ou une obsession sur la migration irrégulière qui va perdurer et qui va enflé au fil des années et faire l'objet de plus en plus de négociations à la fois entre pays membres et pays extra-européens et entre l'Europe et les pays européens, qui va prendre différentes formes politiques. On avait au début donc ces accords de réadmission pour les personnes trouvées en situation de clandestinité dans les territoires européens, et de plus en plus, on va arriver à des formes moins, explicites de ciblage de la migration irrégulière, mais de mêler le contrôle de la migration irrégulière avec des dispositifs de partenariat pour le développement.
Et on va revenir sur ces questions. Qui sont essentielles en effet pour comprendre ces enjeux économiques de l'immigration. Mais d'abord, Ikram Boubtane, vous vouliez réagir.
Oui, parce que pour compléter ce que vient de dire Hélène, c'est que cette libre circulation à l'échelle européenne a été déjà pensée initialement pour les travailleurs, ensuite pour leurs familles, avant que ça soit généralisé à tout le monde. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on a instauré cette libre circulation d'un point de vue économique, bien sûr, sous cet angle-là. On a instauré cette libre circulation pour faciliter la mobilité des travailleurs entre les pays européens, pour permettre aux économies d'être mieux résilientes contre les chocs. Pour revenir sur l'ampleur. La libre circulation pour la France, c'est à peu près un tiers des flux d'entrée. On est entre 70 000 et 80 000 entrées par an en France. Comparé à l'Allemagne, on est loin parce que l'Allemagne est plus attractive pour l'immigration européenne. On est plutôt autour de 300 000 personnes par an, effectivement, d'immigrés européens. Mais ce qui est important à avoir en tête, c'est pour ça que c'est important d'avoir... Et donc, on va avoir l'Allemagne et la France, l'Espagne et l'Italie qui sont aujourd'hui à tir des immigrés européens. Mais on va avoir d'autres pays européens qui sont plutôt où les personnes partent. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, lorsqu'on a parlé des tendances démographiques, c'est intéressant d'avoir en tête que si on avait, lorsqu'on regarde l'Union européenne des 27, donc en prenant en compte à la fois les pays de l'Europe de l'Ouest et les pays de l'Est, on a quand même, donc malgré cette mobilité intra-européenne, ne répond pas à la problématique qui est qu'on a un solde naturel qui est négatif et en l'absence de l'immigration venant des pays tiers, donc soumise à cette politique migratoire qui est de plus en plus restrictive qu'Hélène vient d'aborder, sans cette immigration venant des pays tiers, on aurait eu une baisse de la population de l'Union européenne de 27. C'est pour ça que c'est la bonne échelle d'analyse. Les pays de l'Union, on va pas résoudre le problème de besoin de main d'œuvre à l'échelle européenne, si on considère effectivement que ça peut être résolu par la mobilité des travailleurs européens. On a besoin d'une immigration qui vient des pays tiers à l'Union européenne, qui est régie par cette politique migratoire et sur laquelle effectivement on a besoin d'avoir une réflexion, notamment concernant les voies d'entrée régulière pour les travailleurs qui ne sont pas nécessairement dotés de diplômes de supérieur.
Et justement, dans les années 90, est-ce que l'Union européenne s'empare de cette question de l'attraction de travailleurs de pays tiers ou est-ce que cela appartient à chaque État de fixer, s'il le souhaite, justement, le nombre de ressortissants de pays tiers qui peuvent entrer sur son territoire dans le but de rechercher un emploi avec Ikram Boubtane?
Alors, ce qui est marquant à partir des années 90, c'est que on a une prise en conscience au niveau de chaque pays européen et aussi à l'échelle européenne qu'on devrait remettre en cause la fermeture de frontières par rapport à l'immigration de travail. Dans les années, fin des années 60, en fait, suite au choc pétrolier, il y a eu quand même, avant les deux chocs pétroliers, il y avait une politique de migration, de recrutement de travailleurs étrangers où les pays étaient très proactifs pour recruter des travailleurs étrangers. Et ce qui s'est passé avec les chocs pétroliers, c'est qu'on a fermé quasiment la migration de travail. Dans les années 90, on a commencé à observer des besoins de main-d'œuvre dans les secteurs, notamment les secteurs informatiques, et on a commencé à réfléchir à l'échelle européenne et à l'échelle nationale comment assouplir la question de la migration de travail. Et donc, effectivement, c'est à partir de cette période-là qu'on a commencé cette réflexion-là, d'abord à l'échelle nationale et ensuite à l'échelle européenne, pour essayer de voir, effectivement, qu'on peut faciliter les choses. Tel que ça fonctionne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, la politique d'installation des personnes venant des pays tiers, ça reste ça reste effectivement l'état d'accueil qui va le définir. Mais en revanche, effectivement, on va avoir des directives d'harmonisation pour avoir quand même un cadre qui soit plus harmonisé à l'échelle européenne.
Mais cette politique européenne de l'immigration et de l'asile fonctionne mal. On va en parler. Mais Hélène Thiollet, vous vouliez réagir?
Oui, pour compléter ce que disait Ekram, c'est que effectivement la prise de conscience c'est les années 90, mais ce n'est vraiment qu'à partir des années 2000 que les processus d'harmonisation commencent à prendre forme. Les années 90, c'est encore des approches un peu fragmentaires par État membre, avec des tentatives d'harmonisation. Mais par exemple, c'est en 2009 que la directive sur la carte bleue européenne est adoptée, qui organise en fait l'immigration, qui tente d'organiser, l'immigration hautement qualifiée vers l'Union européenne. Et pour revenir sur ce que disait Ekram précédemment, c'est vraiment une directive qui cible les travailleurs et travailleuses qualifiés et très qualifiés en leur offrant des facilités d'accès, d'entrée sur le marché de l'emploi européen, voire d'installation. Mais qui oblitère complètement le besoin aussi de travailleurs moins qualifiés, voire non qualifiés. Et donc là, l'Europe rentre assez tardivement, en fait, dans ce que des scientifiques appellent la course au talent, hein, qui est une sorte de course mondiale des pays, une compétition pour attirer les travailleurs et les travailleuses les plus qualifiés à l'échelle de la planète. Donc l'Europe est un peu à la traîne. Elle rentre dans cette compétition, mais elle oublie que elle a aussi besoin, comme le disait très clairement et Ekram précédemment, d'autres travailleurs. Et un des enjeux de la réforme, hein, de la directive de la carte bleue européenne qui a été introduite en 2016 mais qui peine vraiment à être mise en œuvre, c'est effectivement d'essayer d'étendre un peu ce dispositif, qui est une façon en fait d'essayer de parler de ces voies légales de l'immigration et du besoin de l'Europe de migration de main-d'œuvre dans un contexte politique où c'est un sujet qui est hautement inflammable.
Et oui, sujet hautement sensible. Comment l'Union européenne tente-t-elle aujourd'hui de mieux organiser l'immigration qualifiée? On continue à en parler dans un instant.
Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière. La rue sous la pluie, le quartier désert, la maison qui dort, mon père et ma mère, et les gens autour, noyés de misère, en partant d'ici, pour quel paradis, ou pour quel enfer. J'oublierai mon nom, j'oublierai ma ville, j'oublierai même que je pars pour l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de la poche, un peu d'argent pour un ticket de train. Allez sans retour, allez sans retour. J'oublierai cette heure où je crois mourir. Tous autour de moi se forcent à sourire. l'ami qui plaisante, celui qui soupire. J'oublierai que je ne sais pas mentir. Au bout du couloir, j'oublierai de croire que je vais revenir. J'oublierai même, si ce n'est pas facile, d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée. Au fond de sa poche, un peu d'argent pour un ticket de train, aller sans retour, aller sans retour.
Aller sans retour de Juliette sur France Culture, d'entendez-vous l'écho, politique migratoire vers une pénurie de main-d'œuvre, point d'interrogation. C'est notre sujet aujourd'hui. L'économiste Ekram Bouptan et la politiste Hélène Thiollet sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch avec la Dinès Barja et mise aujourd'hui en onde par Marie-Claire Oumabadi. Alors on va évoquer le nouveau pacte européen asile et immigration. Mais d'abord, il faut dire et rappeler qu'en Europe, de plus en plus de pays ont recours aujourd'hui à une immigration dite choisie. Le phénomène a commencé dans les années 90, vous nous l'avez rappelé, Ekram Bouptan et Hélène Thiollet, mais aujourd'hui, il s'accélère, Ekram Bouptan.
Oui, parce que la principale dynamique d'augmentation des flux d'entrée dans l'Union, en fait, dans l'Union européenne des 27, en fait, dans leur ensemble, aujourd'hui, c'est l'immigration de travail qui s'ajoute à l'immigration familiale. Donc, bien sûr, pour l'immigration de travail, on part de loin. Donc, même si ça a augmenté, les effectifs restent relativement plus faibles que l'immigration familiale. Mais on observe dans les données de ces autorisations de séjour de plus d'un an qu'on accorde pour s'installer dans l'un des pays des 27, aujourd'hui, effectivement, que ce soit en France où ça a presque triplé, en fait, au cours des dernières années, on a et en Allemagne aussi, où on a une augmentation de cette migration de travail. Je dirais pas une migration choisie, mais simplement, effectivement, une politique de migration qui est là comme politique publique pour répondre à un besoin de l'économie qui est de répondre aux besoins du marché du travail.
J'utilise le terme d'immigration choisie car c'était celui de Nicolas Sarkozy au milieu des années 2000. Hélène Thiollet, c'est l'un des premiers à avoir parlé de cette immigration de travailleurs qualifiés qui ensuite a fait des émules, peut-on dire ?
Oui, enfin, c'est un peu étonnant de parler d'immigration choisie comme d'une chose nouvelle ou innovante. C'est effectivement un constant dans l'histoire. Les pays de destination ont choisi et parfois, comme le rappelait Ekram précédemment, organisé dans les années 60-70 l'immigration vers leur territoire pour des besoins de main-d'œuvre. Les choses s'atténuent un peu dans les années 80, mais à nouveau dans les années 90, l'espace Schengen et l'immigration intra-européenne, c'est une immigration choisie et organisée. L'immigration est toujours dans une certaine mesure choisie. Les politiques de visa sont dessinées par les pays de destination, un peu en partenariat avec les pays d'origine, mais en fait très très peu. C'est vraiment les pays de destination qui ont la haute main.
Mais le choix d'accueillir des travailleurs de plus en plus qualifiés, est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau ?
Alors ça, c'est pas complètement nouveau, mais c'est vrai que c'est une tendance qui se renforce. C'est-à-dire qu'on voit cette sélectivité à la qualification, ou on pourrait dire d'ailleurs, dans une perspective un peu marxiste, à la classe sociale, qui est de plus en plus utilisée et qui surtout est considérée comme de plus en plus légitime. C'est-à-dire qu'on va avoir une désirabilité des travailleurs très qualifiés, on va penser aussi une acceptabilité politique plus forte de l'immigration très qualifiée et une moindre acceptabilité politique de l'immigration peu qualifiée.
Et oui, est-ce que cela entraîne, ce sont des choix, des virages de certains pays, comme celui qui a été opéré par la Hongrie, qui avait une politique historiquement hostile à l'immigration.
La Covid hatásai után magához tért a magyar
gazdaság. Après le Covid, l'économie hongroise s'est redressée. Le chômage est en dessous de 3,5%. Il y a un besoin sans précédent de main-d'œuvre physique et intellectuelle, et parce qu'il y a de plus en plus de projets d'investissement. Par conséquent, les entreprises en Hongrie, petites ou grandes, essayent de plus en plus de trouver de la main-d'œuvre à l'étranger. En ce moment, on peut dire que chaque travailleur d'un pays tiers sauve 10 emplois en Hongrie. Parce que s'ils ne venaient pas, les employeurs devraient sérieusement se demander dans quel autre pays ils pourraient construire leurs usines afin de trouver les bonnes quantités et qualités de main-d'œuvre.
Le témoignage d'un PDG hongrois, Kuss Jarni, dans un reportage d'Euronews du 25 septembre 2023, alors qu'en 2015, le Premier ministre hongrois Viktor Orbán affirmait qu'il ne laisserait jamais les étrangers, je cite, « prendre les emplois des Hongrois ». Il a finalement ouvert son pays à une immigration asiatique, en l'occurrence, et cela par nécessité économique, Ekrem Buptan.
Quelquefois, voilà, c'est qu'il faut les positions, en fait, les postures politiques ne sont pas cohérentes avec les besoins de l'économie. La Hongrie est un pays effectivement de départ des migrés hongrois vers les autres pays européens. C'est un pays vieillissant et que la dynamique économique de la Hongrie dépend aussi de l'apport de travailleurs étrangers, notamment venant de pays d'Asie. Sachant qu'Orban était très opposé à l'accueil de migrants autres que européens dans le pays. Donc oui, c'est la réalité économique. Ça veut dire que si on veut avoir une dynamique économique, il faut accueillir plus de travailleurs. Et c'est important d'avoir en tête, effectivement, et c'était intéressant dans le reportage, de dire qu'un travailleur immigré va sauver 10 emplois. En Hongrie. Pourquoi ? Parce qu'on est sur la question de la complémentarité. C'est pas que l'apport du travailleur immigré lui-même qui est important. Quelquefois, vous pouvez avoir une chaîne de production qui va pas fonctionner parce que vous avez besoin de 10 ouvriers qui sont pas nécessairement les plus qualifiés, mais c'est la complémentarité du processus économique qui va faire effectivement que tout est relié et qu'on a besoin effectivement des travailleurs à tous les échelles de compétences pour répondre aux besoins d'économie. Juste pour revenir tout à l'heure sur la question de la qualification, je pense que c'est important aussi de souligner pour les auditeurs que lorsqu'on prend la population immigrée dans son ensemble et qu'on regarde sur les 30 dernières années, ce qui est clair, c'est qu'on a le niveau d'instruction des immigrés, quel que soit le motif pour lequel ils ont été admis au séjour en France ou dans les pays européens, qui est en train d'augmenter. On voit aussi que le niveau, la part des personnes qui n'ont pas de diplôme est en train de baisser au cours du temps. Donc, les immigrés sont surreprésentés toujours dans les deux bornes extrêmes des qualifications. Et donc, on observe une augmentation du niveau d'éducation des immigrés, quel que soit le motif d'entrée. Si je reviens, en fait, au dispositif de politique migratoire, avec notamment les politiques sélectives, puisque tout à l'heure, vous avez discuté, effectivement, cette question d'immigration dite choisie. Moi, j'emploierai pas, en fait, le terme choisi. Ça me paraît complètement aberrant de considérer qu'il y a une immigration qui serait bonne pour l'économie et une autre qui ne le serait pas. On a essayé, effectivement, quand on regarde l'immigration de travail, et on regarde les détails des données, c'est pas la partie passeport talent, si je prends les dispositifs français, ou compétences talent, si je prends un dispositif ancien, qui est la plus importante. La masse importante de la migration de travail, c'est pas du tout ces dispositifs sélectifs, parce que ces dispositifs sélectifs, c'est une faible part. Elle augmente, mais elle reste extrêmement minoritaire. Et l'autre élément qui est assez marquant dans cette migration de travail, telle qu'on la mesure, c'est que ce ne sont pas des nouvelles entrées. C'est pas des personnes qui sont arrivées avec un titre de séjour régulier, c'est des régularisations pour motif de travail. Et donc, l'impératif économique fait qu'on va avoir effectivement une ouverture vers des voies de migration régulières. Et pour cela, on a fait le choix axé sur des dispositifs sélectifs qu'on a du mal, en fait, à remplir. C'est-à-dire qu'on n'est pas très attractif sur cette migration-là.
Et pourquoi on est si peu attractif, justement ? Pourquoi est-ce que l'Europe, finalement, attire moins de travailleurs que les États-Unis, le Canada ? Parce que, justement, elle offre des conditions moins favorables à l'installation de ces travailleurs hautement qualifiés, Ekrem Buptan ?
Alors, je pense qu'il y a deux, à mon sens, c'est qu'il y a deux facteurs principaux qui pouvaient expliquer le manque d'attractivité sur un marché international. De recrutement à l'international des compétences. Le premier, le marché américain, c'est beaucoup plus grand. Donc plus le marché est grand et plus vous allez être attractif. Et c'est la raison pour laquelle effectivement l'Union européenne pousse ce dispositif de carte bleue européen, parce que la carte bleue européenne, à terme, est supposée permettre la mobilité des travailleurs qualifiés entre les différents États membres. Sauf que, notamment c'est le cas de la France, on ne s'est pas saisi de la carte bleue européenne. Donc lorsque vous regardez les statistiques, le nombre de cartes bleues européennes qui sont délivrées en France est extrêmement faible.
Pourquoi cela ?
Parce qu'on préfère des dispositifs qui sont nationaux, notamment le passeport talent. Il y a une raison économique, parce que lorsque vous recrutez une personne à l'étranger, ça coûte de l'argent. Le processus de recrutement, vous devez employer un cabinet, c'est un coût. Et les entreprises, comme le pays d'accueil, a besoin d'amortir en partie les coûts de recrutement et de récupérer le travail de cette personne talentueuse pour son propre... Donc on souffre en Europe déjà de cette question-là de titre de séjour et mobilité entre les pays. La deuxième, c'est la question de la langue. C'est plus facile, effectivement. Comme j'ai dit, les États-Unis, c'est un grand marché. Et l'Europe, c'est plusieurs langues, plusieurs cultures, donc il y a des difficultés de ce niveau-là. Il y a aussi un élément qui semble important, qui est plutôt, peut-être Hélène va réagir là-dessus, parce que je pense qu'elle connaît mieux le sujet que moi, c'est que quand vous êtes effectivement, quand vous envoyez le message que vous ne voulez pas d'immigration, comment vous pouvez attirer les talents africains en France, avec le discours qu'on a sur l'immigration en France et en Europe.
Oui, mais là, on pourra vous rétorquer que du côté des États-Unis, le discours d'un Donald Trump pouvait largement dissuader les migrants potentiels. Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène Thiollet ?
Oui, je réagis absolument positivement à ce que vient de dire Ekram. Les politiques, on va dire les discours de dissuasion envers l'immigration qui... cible en général l'immigration clandestine, mais souvent sont beaucoup plus larges, sont dissuasifs pour les élites du continent africain, mais aussi les élites mondiales.
Oui, mais encore une fois, ça ne marche pas pour les États-Unis.
Les discours sont aussi les dispositifs, on va dire, administratifs mis en place, notamment les nouvelles procédures autour de l'obtention des visas Schengen et l'entrée en vigueur du nouveau code des visas Schengen en 2020, qui crée de plus en plus d'obstacles à l'obtention de visas pour rentrer sur les territoires européens. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les pays, et je pense au continent africain en particulier, sur lesquels j'ai un peu travaillé, sur les diplomaties migratoires avec le continent africain, les marchandages mis en place par les pays membres de l'Union avec les pays du continent pour essayer de conditionner les décisions de visa l'obéissance, entre guillemets, des gouvernements africains en matière de contrôle de l'émigration irrégulière ou de l'émigration en général, va très, très négativement influencer la vision de l'Europe comme un partenaire autoritaire et inéquitable dans la gestion de la question migratoire. D'une certaine façon, les États-Unis, alors pendant la période Trump, qui est une présidence très très idéologique, qui va beaucoup cibler la migration comme un enjeu de politique intérieure, beaucoup plus que de politique extérieure d'ailleurs. Va y avoir une idéologisation de la question migratoire, mais néanmoins, les États-Unis restent ouverts à l'immigration de travail de l'ensemble de la planète. Et en fait, au contraire, c'est ce qu'on voit arriver aux États-Unis, c'est une grande diversification de l'origine de l'immigration qui vient compléter l'immigration un peu plus traditionnelle de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Et on voit aussi que les élites, qui, par exemple, du Maroc ou de l'Afrique du Nord, qui historiquement étaient assez liés à l'Europe et notamment à la France du fait du passé colonial et de la présence de la langue française dans les systèmes éducatifs, vont plutôt se réorienter vers le Canada et les États-Unis.
France Culture.
Cas suivant. On paraît Kayani Bilal. Né le 8 décembre 1991 à Mossoul, Irak, entré illégalement sur le territoire et appréhendé le 15 février alors qu'il tentait d'embarquer clandestinement vers le Royaume-Uni. Est-ce que vous connaissez les faits ?
Entendez-vous l'écho ?
Conformément aux dispositions relatives aux personnes issues de pays en guerre, vous échappez aux mesures de reconduite à la frontière.
Tiphaine de Roquigny.
Nous continuons à parler des enjeux économiques de l'immigration avec la politiste Hélène Thiollet et l'économiste Ekram Bouptam. Alors, le nouveau pacte européen sur la migration et l'asile a été adopté le 10 avril dernier par le Parlement européen. Il doit encore être ratifié par le Conseil européen. Et l'un des objectifs de ce pacte, c'est de renforcer les contrôles aux frontières. Il y a pour vous une contradiction, Ekram Bouptam, entre, d'un côté, ces pénuries de main-d'œuvre que nous avons évoqué, ce besoin de travailleurs qualifiés, mais aussi de travailleurs moins qualifiés, et ce resserrement, ce premier filtrage aux frontières de l'Union qui permet de rejeter notamment certaines demandes d'asile, en l'occurrence, avant l'entrée sur le territoire européen.
En fait, la contradiction que je peux observer, c'est pas nécessairement en fait entre le pacte et les besoins de main d'œuvre, c'est que simplement, effectivement, malgré les besoins de main d'œuvre dans lesquels, effectivement, notamment pour les travailleurs les moins qualifiés, on n'a pas mis en place des voies de migration régulières permettant des recrutements de ces travailleurs directement dans leur pays d'origine pour que ces travailleurs potentiels ne prennent pas ces routes migratoires pour venir d'une manière irrégulière en Europe. Ce que je peux aussi observer, c'est que c'est la contradiction, c'est aussi entre la situation qui a été bien décrite par Hélène au début de notre émission sur l'explosion des conflits dans le monde et l'augmentation du nombre de personnes déplacées en interne et qui ont franchi des frontières, mais généralement c'est qui sont dans les zones qui sont dans les pays en développement, qu'on observe maintenant depuis 2012, donc ça va faire quand même un certain nombre d'années, et qu'on n'a pas augmenté notre part pour l'accueil de ces personnes déplacées, les poussant avec les années à traverser plusieurs frontières au péril de leur vie, et leur seul espoir de demander une protection internationale en Europe, c'est d'arriver d'une manière irrégulière. Donc, il y a le sujet de la sécurité des frontières européennes, c'est un sujet assez ancien qui a été abordé tout à l'heure par Hélène. Le pacte migratoire et asile, aujourd'hui, effectivement, il ne me semble pas répondre ni à cette question de sécurité à la frontière, et malheureusement, je ne pense pas qu'il va répondre non plus à la prise en charge efficace de ces arrivées irrégulières.
Aujourd'hui, Hélène Thiollet, l'Union européenne est tentée de renvoyer vers un État tiers l'examen de la situation des migrants qui arrivent sur son sol, comme on peut observer ce qui se passe du côté du Royaume-Uni. Je rappelle que Rishi Sunak a réussi le 23 avril dernier à obtenir l'expulsion des demandeurs d'asile vers le Rwanda après plusieurs mois de négociations avec la Chambre des Lords.
Oui, effectivement, c'est la seconde caractéristique de l'évolution des politiques européennes, et par européenne, j'entends politique des États du continent européen comme de l'Union européenne. Je vous parlais tout à l'heure d'une sorte d'informalisation des politiques migratoires, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus mélangées avec des politiques de développement, des politiques humanitaires, et qu'elles prennent aussi, bien sûr, la forme de ce pacte qui a plusieurs dimensions. Mais le point important aussi, c'est que les politiques migratoires deviennent de plus en plus pas seulement des politiques anti-immigration clandestine, mais aussi des politiques anti-asile ou anti-réfugiés. C'est-à-dire que les dispositifs qu'on voit apparaître dans le pacte asile et migration sont très largement des dispositifs qui ont vocation à empêcher, comme le disait Ekram, les demandeurs d'asile d'arriver aux frontières de l'Europe, et s'ils arrivent aux frontières de l'Europe, de normaliser l'approche type hotspot ou les pratiques d'enfermement de ces personnes pour gérer, entre guillemets, mais par l'incarcération, littéralement, des demandeurs d'asile pour gérer leur arrivée.
Et là, vous évoquez les accords
qui ont été passés, il faut rappeler,
c'est les accords qui ont été passés par l'Union européenne avec la Turquie en 2016, la Libye en 2017, la Tunisie en 2023 et la Mauritanie et l'Égypte en 2024. C'est-à-dire que cette sous-traitance de l'examen de la situation des migrants existe déjà.
Oui, et là, pour le coup, il s'agit peut-être en parole de migrants, mais en pratique, il s'agit essentiellement de sous-traiter la gestion de l'asile. Puisque quand vous parlez, par exemple, de l'Égypte, de l'accord signé récemment en Égypte, qui fait suite à un accord signé l'an dernier, il ne s'agit pas vraiment de gérer l'émigration égyptienne, qui a certes un tout petit peu augmenté, hein, les traversées clandestines d'Égyptiens vers l'Europe ont un tout petit peu augmenté, mais c'est surtout gérer la potentielle émigration des exilés soudanais, qui eux sont très nombreux et très largement restés dans la Corne de l'Afrique, ou la future potentielle migration des réfugiés gazaouis. Même chose avec la Turquie. Il ne s'agit pas de problème de migration en Turquie. Il s'agit des Syriens qui sont, au regard du droit international comme des droits européens, des réfugiés. Et même chose dans le cas du Rwanda. Il s'agit aussi de gérer des questions d'asile. Peut-être sur ce point, on peut faire un point. Je vais m'aventurer sur le terrain économique, si vous m'y autorisez. C'est la question du coût de ces politiques. On a vu les efforts politiques que Rishi Sunak a déployés pour faire adopter son Safety of Rwanda Act, en avril dernier. Et on peut même chiffrer le coût que cela va représenter pour le contribuable britannique, qui est très important et surtout qui est beaucoup plus important que de traiter les demandes d'asile qui arriveraient directement sur le territoire britannique. Donc quand on voit la disproportion entre le coût de ces diplomaties anti-réfugiés et le coût que représenterait l'accueil d'exilés, dont par ailleurs la Grande-Bretagne a besoin, puisqu'elle a besoin d'immigrer, comme toute l'Europe, comme le soulignait très, très justement ma collègue, on peut un peu se demander quel est l'intérêt de ces politiques. Il n'est visiblement pas financier, et donc il faut aller chercher ailleurs la raison de ces politiques publiques.
Qu'est-ce que l'économiste a envie de répondre à cela, Ekram Bouptan ?
Alors, une première précision à laquelle je tiens particulièrement, c'est qu'on est sur le terrain budgétaire et non pas sur le terrain économique. Donc, puisque c'est le coût budgétaire, effectivement, de ces politiques, alors moi, ce que je retiens, c'est qu'on a des politiques, effectivement, de fermeture et de reconduite à la frontière qui sont extrêmement coûteuses pour le budget de l'État et qui sont, dans le même temps, inefficaces pour limiter à la fois ces arrivées irrégulières. Et à la fois, elles sont inhumaines pour les personnes, notamment les personnes qu'a souligné effectivement Hélène, qui sont à la recherche d'une protection internationale. Si je reviens sur le cas du Royaume-Uni, le Royaume-Uni, c'est quand même un cas de figure assez paradoxal. Pourquoi ? L'économie du Royaume-Uni, c'est la deuxième économie européenne après l'Allemagne. Et c'est surtout un pays, effectivement, dans lequel il y a quand même des besoins de main-d'œuvre qui sont extrêmement importants.
Et qui traverse des turbulences importantes depuis le Brexit.
Oui, sauf qu'effectivement, le Brexit, en envoyant ce signal-là, tout en mettant en place des titres de séjour pour les migrants européens, le signal du Brexit qui a été envoyé et le discours du Brexit a fait que les Européens sont tous partis, en fait, sont majoritairement partis des États, du Royaume-Uni, et que les besoins de l'économie du Royaume-Uni a fait que les flux migratoires au Royaume-Uni ont augmenté, notamment venant de pays tiers. Et si le Royaume-Uni est extrêmement attractif pour les personnes, effectivement, qui recherchent à la fois une protection internationale, par exemple les Iraniens, et à la fois améliorer leur perspective économique, parce que l'économie du Royaume-Uni a besoin d'immigrer, et donc ils ont besoin de ces travailleurs, même lorsqu'ils travaillent en situation irrégulière.
Je viens ici, je m'assieds et regarde la mer. Mon regard va vers la Libye, en face, et croyez-moi, parfois j'ai l'impression d'en entendre les cris, les voix, les odeurs. Tout ceci finira, parce que ça finira un jour, ça doit finir. Il n'est plus possible de continuer avec toutes ces atrocités, cette cruauté, cette méchanceté. Je sais, c'est difficile de faire avancer les choses, mais je suis devenu député européen pour cela. Si je me suis engagé, c'est pour que quelque chose bouge. Ainsi je pourrais dire à mes petits-fils, oui, votre papy a fait tout ce qu'il a pu.
Il y a ceux qui disent « Ah, Lampedusa, ce sont des héros ». Mais de quels héros parlons-nous ? Nous sommes tout simplement des personnes qui accueillent d'autres personnes quand elles te demandent de l'aide. Au bout de 4 ans, la montagne a accouché d'une petite souris. J'étais arrivé avec une toute autre ambition. Mais on sait bien que le trilogue, une négociation à 3, alors que le Conseil formé par 27 pays dispose d'une majorité contraire à la migration, allait être dur. C'est une bataille impossible, mais un résultat a été obtenu. Un petit 10 pas en avant, certes, mais pas ce que j'aurais voulu.
Voilà, Pietro Bartolo, médecin de Lampedusa, devenu député européen en 2019, dans un reportage d'Arte diffusé il y a quelques jours. L'inquiétude des ONG est en effet forte sur les conséquences de ce pacte européen sur les migrants et sur les réfugiés, les demandeurs d'asile. On arrive à la fin de cette émission. Un mot de conclusion, peut-être Hélène Diollet, sur ce qui ressemble à des incohérences économiques de cette politique migratoire européenne.
Ben absolument, on peut tout à fait conclure là-dessus. Incohérence économique entre l'intérêt de l'Union européenne pour son développement et sa croissance, mais aussi incohérence politique hein, entre les obligations de protection et de défense des droits des exilés ou des droits humains en général, qui font l'objet d'un très large consensus. Autant au sein de la population européenne, il n'y a pas de remise en cause de la légitimité des droits humains et des droits d'asile, et les pratiques qui sont liberticides et qui sont en fait aussi des contraventions aux droits humains et qui sont mises en œuvre dans le cadre de ce pacte européen.
Et Krambouptan ?
Alors, si je peux conclure sur... ce que nous enseigne un petit peu ce qu'on a observé ces dernières années, c'est qu'il y a vraiment une difficulté à se mettre d'accord à l'échelle européenne sur cette question migratoire. Et que malgré le niveau de développement du continent et malgré les expériences réussies, parce que j'aimerais bien rappeler que en 2015, l'Allemagne a accueilli les réfugiés syriens. On n'a pas vu un effondrement de l'économie allemande. Ce qu'on a observé, c'est plutôt une bonne intégration des réfugiés syriens qui se sont bien intégrés sur le marché du travail. Une économie allemande qui était sortie renforcée de cette crise. Et avec peut-être une note d'espoir, parce qu'on a réussi à se mettre d'accord pour l'accueil des Ukrainiens. Pour les Ukrainiens, effectivement, les pays européens ont à la fois, effectivement, se sont mis d'accord pour déclencher la protection temporaire, pour laisser les Ukrainiens s'établir dans les différents pays, et ils ont été accueillis, nos économies ont été plutôt renforcées par cela, sachant qu'on est, comme on a commencé l'émission là-dessus, dans une perspective de long terme, on a des besoins démographiques et qu'on a besoin, effectivement, d'accueillir plus à l'échelle européenne.
Merci beaucoup Ekram Bouptan et Hélène Thiollet de nous avoir ainsi éclairé sur ces enjeux économiques de l'immigration. Je renvoie Ekram Bouptan à votre ouvrage « L'économie de l'immigration » qui est paru aux presses universitaires Blaise Pascal en 2018. Hélène Thiollet, je rappelle que vous êtes politiste, chercheuse au CNRS et au CERI Sciences Po. Un immense merci encore à toutes les deux.
شعري احمر ولابسة فيرساتشي شنطة كوتشي شايلها على كتفي رافع موبايلي وباخد السيلفي متجيش تقرب عشان مش هتمشي شعري احمر ولابسة فيرساتشي شنطة كوتشي شايلها على كتفي رافع موبايلي وباخد السيلفي متجيش تقرب عشان مش هتمشي مش هتمشي لا ما تجيبش سيرتي ما تزيدشي شكلك كده تبسي فهتجري بس لما اقولك انهي معلش لسه تحت رجلي مين بيسلم مين مستني مين من كلمة مش بيتني نفس الشخص اللي بيكرهني هو اللي بيمدحني كعليا طب استني قلبك جايبك وبتتحدي الاول عارفة انك مش قد المكسب ليا ما تتهدي
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. Merci à tous d'avoir été avec nous. La découverte musicale du jour, c'est Monica de Shari Armar. Demain, industrie de la défense, l'union fait la force. Point d'interrogation. Nous en parlerons avec Fanny Coulon et Renaud Bellet. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
رافع موبايلي وباخد السيلفي متجيش تقرب عشان مش هتمشي كلمة واحدة هديها وانا لسه قافلة على السيرة وفي لحظة واحدة هكفيها مش حتى عادي ارميها ستات تفكر الحيلة في دماغي سم ذاكيرة مع نفسك شوف مصيرك مش فاضي حتى مع غيرك وانا ماشية على المظبوط شفت حد مخدود قومين بنفس الجود الخطوة مش بتفوت